Comment pousser les bords du monde?
I'm just average common too, just like him, same as you.
Bob Dylan.
Well, slowly when you're trying to be so good, you walk into the room.
Comment pousser les bords du monde?
With your pencil in your hand.
Un feuilleton de François Bon.
I was shadow boxing early in the day. I figured I was ready for Cassius Clay.
By Bob Dylan.
But the times, they are a-changing.
11. Entretien avec Bob Dylan, poète. Bob Dylan, cet hiver 1965-1966, n'a pas encore ses 25 ans. Autour de lui, tout sans doute est excessif. Le succès, l'attente, l'argent. Et pourtant au centre, un homme seul, un homme en quête de sa musique. Et jamais elle ne sera si haute, si belle, que les chansons qui naissent cet hiver-là. Cette affaire de narration, la pleine maîtrise de l'outil pris à Allen Ginsberg, à la mythologie de Rimbaud, le poète qui marche à pied, arpente le désastre du monde avec des images magiques. C'est aussi le monde des récits fantastiques, l'apport de Kafka, et peut-être, sous Kafka ou Gertrude Stein assumée, peut-être le travail sur sa propre judaïté. De quoi parle Bob Dylan? Nous qui découvrions ses chansons quand elles nous arrivaient, nous n'en percevions que des mots isolés. Cela ne gênait pas notre écoute. On comprenait la posture, l'homme qui proteste, celui qui fait défiler pour nous ce qu'on devinait être bien étrange. On comprenait « The ghost of electricity howls in the bones of her face ». Le fantôme de l'électricité hurle sous les os de son crâne. Cela ne nous donnait pas les clés de Visions of Joanna, mais que ces clés ouvraient à un mystère pour lequel eux non plus, les anglophones, n'étaient pas préparés. Nous le comprenions à ces inflexions, cette façon de tout faire traîner, comme si la guitare même, maintenant on s'en moquait. Et que l'harmonica était une sorte de pinceau pour dire la saturation, pour déchirer des murs leurs couleurs. Est-ce que vous vous considérez vous-même comme poète? Il y a des gens qui écrivent des poèmes et d'autres qui écrivent des poèmes. Est-ce que tous ceux qui écrivent des poèmes, vous les appelez poètes? Il faut une certaine qualité de rythme, une certaine façon de rendre visible. On n'a pas forcément besoin d'écrire pour être poète. Il y a des types qui bossent dans une station-service, ce sont des poètes. Moi, je ne m'intitule pas poète parce que je n'aime pas ce mot-là. Je suis un artiste, un trapéziste. Est-ce que vous pensez qu'un auteur de chansons, c'est un genre de médium? J'écris pas vraiment sur quelque chose, je sais pas d'où ça me vient. Quelquefois, je me retrouve dans ces périodes que j'ai traversées autrefois. Je devais être au bon endroit de l'expérience qu'il fallait pour ces chansons. Parce que la plupart du temps, je ne savais pas de quoi j'étais en train d'écrire. Mais là, des années plus tard, quelquefois, ça devient clair. Vous étiez engagé politiquement, vous ne l'êtes plus. Pourquoi? La politique a toujours été là. Il y a toujours eu des gens en train d'essayer de changer les choses. Ils sont investis dans les jeux politiques parce que c'est comme ça qu'ils peuvent changer les choses. Moi, j'ai toujours pensé que la politique, c'était une partie de l'illusion générale. Par exemple, il y a ces gens qui ont des idées précises ou qui étudient les systèmes de gouvernement. La plupart de ces gens sont passés par l'université. Ils rapportent tout le monde à leurs propres projets. Alors bien sûr, ils se servent de la musique, parce que la musique est accessible. Alors que nous, on aurait composé ces trucs et chanté ces chansons, qu'il y ait le problème politique ou pas. Je n'ai jamais eu à arrêter un rôle politique, parce que je n'ai jamais joué ce rôle. Gurdjieff dit que tout ce qu'on a de mieux à travailler chaque jour, c'est la mobilité.
Watchman click his flashlight, ask himself if it's him or them, it's insane. Louise, she's alright, she's just near. She's delicate and seems like the mirror. But she just makes it all too concise and too clear that Johanna's not here.
Visions of Joanna. Ce que Joanna voit et que nous ne voyons pas. Ou bien nous-mêmes dans la nuit. Près d'une fille qui s'appelle Louise, tâchant de rassembler ce que nous en savons. de Johanna, qui n'est pas là. Une affaire d'être seul. Et les fantômes de la ville, ce par quoi elle vous hante. Le bruit des tuyaux enroués. C'est comme en pleine nuit de faire une bonne farce. Quand tu voudrais juste être tranquille, on est ici échoué, on voudrait bien se faire croire que non. Et Louise tient une poignée de pluie en main, voudrait que tu la défies. Dans la chambre, le tuyau de chauffage est enroué, il tousse. La radio variété se la joue douce, mais il n'y a rien, vraiment rien à couper, juste Louise et son copain sur le lit, emmêlés. Et ces visions de Johanna qui m'assaillent la tête. Mais la pluie que Louise tient, c'est une poudre blanche. Pas une chanson aussi mystérieuse par la durée de la nuit qu'elle convoque, et paradoxalement, peut-être, pas une chanson de Dylan aussi simple à traduire. Ambiance nuit sur chose tellement simple de l'expérience commune.
Oh, how can I explain? It's so hard to get on. And these visions of Johanna, they'd kept me up past the dawn.
C'est les assonances qui en font le prix. Allez en chercher le velours. Ces femmes sur le terrain vague, l'allusion obscène et leur immobilité qui effraie, un tableau d'Edward Munch. Louise et Johanna, toutes deux divisées, assemblées dans l'entité Mona Lisa. Il n'est jamais allé voir la Joconde au Louvre, pourtant, Dylan. Et le mot « infinity », le prendre comme « infini », ou au sens de l'éternité de Rimbaud. Soudain, on a oublié la chambre des premières strophes. On en a fait ce tableau. À mesure qu'on avance dans la narration de Dylan, on prend conscience de cette grammaire. On ne développe pas une histoire, on la recadre. On la reprend identique, mais dans un autre dispositif de représentation où tout se reconstruit alors en décalage. Un manteau abandonné dans une cage de théâtre. Et reste l'irruption du narrateur à la fin, sous la pluie, qui charge un camion de caisses de poissons. Mais sur quel port? Et qui sont pour chacun de nous les parasites, sinon d'autres figures de soi-même? Entretien avec Bob Dylan, suite. Vous avez vous-même des héros? Pour vous, qui est un saint? Un saint, c'est quelqu'un qui se donne totalement, librement, sans lien. Il n'est jamais sourd ni aveugle, pourtant il est les deux. Il est le maître de sa propre réalité, la voix de la simplicité. Le truc, c'est de rester à distance des reflets de miroir. Le seul vrai miroir, c'est les flaques d'eau. Vous écoutiez quoi quand vous êtes passé du folk à la musique électrique? Le son de la rue, ça l'est encore. J'entends symboliquement ce son n'importe où que je sois. C'est le son de la rue dans le soleil, au coucher du soleil, à certains moments, certains types de bâtiments, une certaine sorte de gens qui marchent dans les rues. Le son du dehors, quand ça t'arrive par la fenêtre ouverte, que c'est ce que tu entends. Des cloches un peu loin, un train qui passe, une dispute dans l'appartement d'à côté, une bagarre, et tout ça en même temps. Moi, ça me manque, les marteaux-piqueurs. Et si parfois une grande chanson de Dylan, c'était comme renverser un carton de vieux jouets. Il reste de belles couleurs, même un peu abîmées. Des cassettes de vieux films, les vieilles histoires en images. Et tout ce qui faisait avant, vaguement peur. Mais c'est lisse dans la main, ça brille dans la lumière. Maintenant, on ne les craint plus, les figures, on est grand. L'allée de la désolation, c'est une vraie route qui va vers le vrai monde. Mais on le fuit pour un autre. Ou bien elle vous ramène à celui qu'on avait voulu quitter. Alors revient la peur, une vraie peur, sur cette route de la désolation. Narrativement, chaque figure, une bulle microscopique, comme un ancien conte aperçu. Le récit s'arrête à peine le temps d'un verre. L'image est soufflée par le suivant. Pas de lien. Chez Dylan, compositeur, la narration est plus audacieuse que les images elles-mêmes. C'est sans doute ce qui fascinera chez lui John Lennon. Scène évoquant tous les passés, mais embarquée dans le flux qui va trop vite pour la pensée sur cette route de la désolation. Einstein est vieux et célèbre, mais ses travaux, qui les comprend? Et voilà traînant ses écrits dans une valise trop lourde. Il fut, paraît-il, en son temps, un célèbre violoniste électrique. Quelle musique pouvait bien jouer Einstein sur son violon électrique, sinon cette chanson même? Est-ce qu'il en parlera une fois dans ses chroniques, Dylan, de comment ça lui est venu tout cela? Si c'est dans un cahier qu'une nuit c'est venu tout en vrac? Ou bien s'il y a lentement cette image qui se fait, l'allée de la désolation, le brouillard, et qu'on agglomère lentement sur elle la totalité des images qui viennent? Et lui, bien sûr qu'il l'a probablement écrite d'abord au piano. Un martèlement d'accords, quelque chose qui se répète, identique à soi-même, lancinant. Il l'enregistre avec les musiciens qu'il a rassemblés pour Highway 61. C'est tout simple, c'est une parade. Le cirque arrive dans la ville, mais ça ne fonctionne pas. On a cette première version, basse électrique, guitare amplifiée. C'est trop carré, les instruments n'agrippent pas la voix. Est-ce que le mystère de la musique, on n'en comprend pas une partie, lorsque justement ça ne marche pas, on se refuse à soi-même de considérer le travail comme fini? La vraie noirceur, la vraie grandeur de sa propre chanson, Dylan l'inventera ensuite, l'inventera sur la scène, puisqu'elle lui sera désormais ensuite, et aujourd'hui encore, comme le centre même de tout ce qu'il a fait. La nuit qu'on invoque, les figures sorcières, et l'humanité mise devant son propre spectacle. L'allée de la désolation, désormais, nous y marcherons pour toujours. You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in Rambo. WC Fields. You try so hard, but you the family, you know, the trapeze family in the circus. Say when you get home, because something is happening here, Smokey but Rubs, you don't know what it is. Allen Ginsberg. Do you, Mr. Jones? Charlie Rich. Pourquoi les musiciens fument autant d'herbe? Être un musicien, ça veut dire, selon que tu vas loin ou pas, d'atteindre les profondeurs de là où tu es. La plupart des musiciens, ils essaieront n'importe quoi pour aller à ces niveaux. Parce que jouer de la musique, c'est un truc immédiat. Le contraire de poser de la peinture sur une toile, qui est une chose calculée. Tu as l'esprit qui marche pendant que tu joues ta musique. Alors, tu essayes d'aller de plus en plus profond à l'intérieur de toi pour la trouver, la musique. Vous avez dit que la musique correspond mieux à l'époque que la peinture. Pourquoi? Les grandes peintures, elles ne devraient pas être dans les musées. Vous avez été quelquefois dans un musée? Les musées, c'est des cimetières. Les peintures, on devrait les accrocher dans les restaurants, les restos du cœur, les stations-service, les chiottes pour hommes. Les grandes toiles, on devrait les trouver là où on passe du temps. Alors qu'on ne peut pas les voir, les grandes toiles. Tu payes un demi-million de dollars et tu l'accroches dans ton salon pour que tes invités l'admirent. C'est pas de l'art, c'est une honte, un crime. La musique, c'est la seule chose en adéquation avec ce qui se passe. Et ça n'existe pas dans les livres. C'est direct, depuis la scène. Van Morrison a dit que vous étiez le plus grand poète vivant. Vous pensez à vous-même dans ces termes? Si je me sens poète, c'est à l'intérieur de moi. C'est à l'intérieur de moi de venir là et d'être poète. Mais les poètes conduisent pas de bagnole. Les poètes vont pas au supermarché. Les poètes ne vident pas leurs poubelles, les poètes ne sont pas à la CEDIC, les poètes ne cherchent pas une piole dans les agences de location ou n'importe quoi, les poètes ne parlent même pas au téléphone, les poètes même, ils parlent à personne. Les poètes n'écoutent rien, les poètes vivent à la campagne, et les poètes en général, ils ont une sale faim. Regarde Keats, regarde Jim Morrison, si on peut l'appeler poète. Encore qu'il y en a qui disent qu'il est parti dans les Andes, à d'autres cochons, ou voyageant avec un âne. Dylan, le sommet, Ballad of a Thin Man, le refrain qui résonne pour nous tous comme phrase emblématique, signature de Dylan lui-même. N'est-ce pas, Monsieur Jones? Mais c'est amical. Ses copains, parfois, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Mr. Dylan. Mais Jones, silhouette anonyme, la figure qui tourne le dos, l'homme qui fuit là-bas comme un tableau de Magritte, il a les bouquins de Magritte, Dylan. C'est l'insaisissable. Et si la révolution, Dylan, c'était cela, avoir remplacé ce qu'on revendique du monde pour le sens par une figure qui maintenant nous impose l'absence de sens et de raison à tout cela. Tu rentres dans la chambre, tu as ton stylo à la main, tu vois un type tout nu. Tu demandes, c'est quoi ça? Tu fais tout ce que tu peux, mais tu comprends pas. Qu'est-ce que tu dirais, toi, en rentrant chez toi? Parce qu'il se passe quelque chose ici, mais toi, tu vois pas quoi? Toi, tu vois, ami Jones? Tu redresses la tête, tu lui demandes, c'est vraiment comme ça? L'autre, il tend son doigt sur toi. C'est comme ça. Toi, tu dis, il reste quoi à moi? Un autre type dit, moi, c'est quoi? Toi, tu dis, oh bon Dieu, je suis vraiment si seul ici? Do you, Mr. Jones? C'est une chanson qui, depuis 40 ans, fiche la frousse. Un hymne, un sommet. Pour la tension qui la traîne de refrain à refrain. Et la silhouette de ce Jones derrière. Mr. Jones, c'est l'anonyme, c'est l'être rien. Nous, comme être rien. Le cas de Kafka. Un roman de Dashiell Hammett en 1934 s'appelle Thin Man. Gertrude Stein vient de reprendre la figure dans son autobiographie de tout le monde. Et Gertrude Stein, Bob Dylan a lu forcément. Certainement aussi son fameux How to Write, comment écrire, toujours inédit en français. Il cite plutôt Scott Fitzgerald que Stein ou Kafka, mais Dylan connaît, il l'a confirmé, le vieux saltimbanque de Baudelaire qui traverse sa chanson, comme il connaît le champion de jeûne de Kafka. Il sait la récurrence du motif, dans le journal de Kafka, du narrateur qui rentre dans une pièce et découvre l'angoissant ou l'horrible. La référence à la loi dans le dernier couplet de la chanson, une allusion directe aux portes de la loi dans le rêve de la cathédrale du procès. C'est bien Kafka qui est derrière ce chant de l'homme si mince qu'il s'efface. Ballad of a Thin Man. T'as fréquenté des professeurs, ils ont aimé à quoi tu ressembles. T'as vu de bons avocats pour parler des lépreux, des escrocs. Tu as même lu tout Scott Fitzgerald page à page. T'as lu beaucoup de livres, tout le monde le sait. Dans cette suite de couplets étranges, rien qu'un ballet, la convocation des vieilles démonstrations de fêtes foraines. Dans les années 60, on les promenait encore dans les provinces, on exhibait les monstres de baraques, les bricolés à deux têtes. Comme on promenait dans les foires, paraît-il, la jambe amputée de Sarah Bernhardt, rachetée par un Américain, mise dans le formol. Le génie de Dylan, c'est aussi de ne pas dévoiler ses sources. J'ai seul la clé de cette parade sauvage. Phrase de Rimbaud qu'il sait par cœur. Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks.
Jean-François Néolier, Julien Douminc, Ella Marder, Annabelle Brouard, Claude Guerre. Comment pousser les bords du monde? Bob Dylan. un feuilleton en 15 épisodes, written and talked, écrit et raconté, par François Bon. Demain, 12e épisode, La fée électricité, Nashville et l'homme hué.